chronique du théâtre en pierre dorée.
Un rendez-vous radio pour Palais Théâtre.
Parlons théâtre.
Parlons théâtre.
Parlons théâtre.
Parlons théâtre.
Parlons théâtre, c'est avec les comédiens des rencontres de Thésée en Beaujolais. L'équipe organisatrice des rencontres de théâtre au château de Rochebonne à Thésée a eu l'idée d'inviter les compagnies programmées pour cette édition 2020 dans une chronique radio. Un festival certes suspendu, mais avec des acteurs de théâtre bien en vie.
C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde!
Les comédiens du théâtre en pierre dorée, Amandine Blancard, Clément Morinière et Damien Gouy, nous parlent des coulisses du théâtre en pierre dorée et nous livrent un texte de leur choix.
Il ne sera pas dit que je ne serve de rien dans cette affaire-là. Je vais, de mon côté, me préparer aussi.
Alors, une émission un peu spéciale pour démarrer, puisque pour poser le décor, nous avons décidé de rencontrer l'ensemble de l'équipe du théâtre en pierre dorée, ce collectif d'acteurs créé en 2012 autour des rencontres de Thésée, un week-end théâtral qui a lieu chaque année habituellement au château de Rochebonne, et derrière le collectif d'artistes également l'administratrice, le technicien et quatre comédiens cofondateurs de cette compagnie, tous issus essentiellement de l'ENSAT et du TNP de Villeurbanne. Et avec nous tout de suite, l'un d'eux, Damien Gouy.
La compagnie a été créée en fait donc en 2012 sous l'impulsion de l'association culturelle de Thésée qui s'appelle Thésée en art et qui soutenait le festival pendant 2 ans. Et après, ça devenait tellement important et puis on commençait à avoir des subventions publiques qu'il a fallu créer donc une association, donc une compagnie qu'on a appelée le Théâtre en pierre dorée. Et cette compagnie, donc depuis, gère et le festival et toutes les autres activités autour du festival.
Un théâtre de textes et d'acteurs avec des créations variées pour toucher tous les publics, comme nous l'explique très bien Amandine Blancard.
Donc l'aventure de la compagnie s'est constituée autour d'une passion commune pour le jeu et les mots. Nous sommes avant tout des comédiens et comédiennes interprètes et c'est le plaisir de porter les mots qui nous a poussés à faire ce métier et à travailler ensemble. Donc c'est important pour nous de défendre un théâtre de texte où la langue et la poésie ont toute leur place et de faire en sorte qu'une pièce qui peut sembler parfois un peu ardue puisse devenir accessible, compréhensible et vivante. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? Nous sommes 4 dans l'équipe artistique et chacun propose tour à tour ou simultanément un texte, une pièce, une adaptation qu'il va soumettre à l'équipe et dont il devient alors le porteur de projet. Et nous avançons ainsi chaque année avec nos complémentarités et des objectifs communs. Cette façon de procéder nous permet de proposer au public des formes multiples. Alors d'abord, proposons des pièces contemporaines pour mettre en valeur les autrices et les auteurs vivants et pour questionner notre monde d'aujourd'hui et de demain. Je pense par exemple à un texte de Pauline Noblecourt sur la collapsologie qui s'appelle « Théorie pratique de l'espoir en milieu inhospitalier » qu'on a pu jouer l'année dernière et qui sera repris très probablement la saison prochaine. Mais aussi des textes de notre répertoire classique, en travaillant à faire entendre la beauté de la langue classique, mais aussi dans ces textes, tout ce qui, dans leurs propos, peut résonner pour nous de nos jours, comme Le Menteur de Corneille ou Le Mariage forcé de Molière. Et puis c'est important aussi pour nous de nous adresser aux enfants et aux plus jeunes. Donc chaque année, on s'engage à créer un spectacle tout public, que donc les familles peuvent voir, que nous proposons aussi dans les écoles. Je pense notamment au Papa de Simon, que Clément Morinière a adapté à partir d'une nouvelle de Maupassant, ou au Petit Prince, qui se tourne assez régulièrement. Et enfin, nous proposons des spectacles poétiques et musicaux, comme Bourville, poète du bal perdu, qui a été créé par Damien Gouy et Benjamin Quiroteret. Des spectacles aussi sur Aragon, Apollinaire, Boris Vian. Et à travers toutes ces formes, nous mettons en scène 2 types de spectacles. Des spectacles qui intègrent des grandes équipes de comédiennes, comédiens, techniciens. Ces spectacles sont voués à être présentés dans les théâtres, comme on a pu le faire par exemple avec Le Menteur de Corneille, où on était, je crois, 10 comédiens en plateau, avec un dispositif technique important. Ou alors Ploutos, d'après Aristophane. Donc ça, c'est les premiers types de spectacles. Et nous proposons aussi des représentations qui, en plus d'être jouées au théâtre, peuvent être jouées partout, c'est-à-dire dans les médiathèques, dans les écoles, sur les places du village, même chez les gens, dans leurs appartements. Et c'est donc un dispositif théâtral qui est souple et qui permet d'aller à la rencontre du public plus facilement, d'être plus autonome. Je pense par exemple à Devos Rêvons de mots, qui a été créé par Damien Gouy et Benjamin Kerotret, ou au Petit Prince, qui est mis en scène par Julien Gauthier, qui sont des formes comme ça, un peu légères et souples, qui tournent partout, régulièrement, et sont encore prévues en tournée l'année prochaine. En ce qui concerne l'année prochaine, les circonstances actuelles ne nous empêchent pas de continuer nos projets. En plus des spectacles en tournée, Julien Gauthier va adapter et monter un texte d'Alpha Cabas sur l'immigration et l'esclavage. Clément Morinière va créer un cabaret sur Boris Vian, le transcendant satrape Boris Vian. Je prépare un spectacle tout public sur la déesse Artémis. Et nous allons créer tous ensemble un diptyque à partir de deux farces de Molière sur le mariage forcé, avec Damien Gouy dans le rôle principal, avec notamment une tournée prévue à Singapour en janvier prochain. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'aller vers le public en cultivant toutes nos forces de proposition et avec un rendez-vous annuel commun, les rencontres de TV.
Théâtre proche du public et notamment dans la région en Beaujolais à l'occasion des rencontres qui ont lieu habituellement fin juin au château de Rochebonne à Thésée. Avec nous et sur Radio Calade, Clément Morinière pour nous parler des rencontres.
Les rencontres de Thésée, on aurait dû faire la 9e édition cette année. La chose importante, c'est le terme rencontre. C'est vraiment au cœur de notre démarche, ce terme de rencontre avec toute cette notion d'échange et de partage. Parce que suite aux diverses expériences qu'on a pu avoir dans l'institution théâtrale, on voulait prôner la proximité, l'échange, la simplicité de rapport avec le public. C'est vraiment au cœur du projet des rencontres de Thésée. C'est de faire que le public vienne rencontrer des équipes artistiques, assiste à la mise en place technique, parfois des aménagements des différents lieux qu'on investit lors de ces rencontres qui se passent donc au château de Rochebonne de Thésée en plein air. Les inviter à partager avec nous ce qu'on appelle notre petite cuisine interne. Souvent, ce qui se passe quand on joue dans les grands théâtres, comme ça a été notre cas là pour la plupart, quand on sort de scène, on voulait retrouver le public et puis pouvoir lui proposer de discuter avec des équipes artistiques et techniques de façon simple, de façon décomplexée aussi. Là, la démarche de rencontre et puis de la compagnie Théâtre Empire Doré en général, c'est plutôt d'aller vers le public, autant dans les choix artistiques d'ailleurs, au niveau du choix de notre répertoire, d'aller sur le terrain. Faire que le public nous parle comme à des copains qui viennent de faire une représentation. Parce que aussi, avec le temps, on a développé une certaine connivence aussi avec le public qui commence à nous connaître, qui commence à nous avoir vus dans plein de spectacles différents, dans plein de registres différents, qui nous retrouve entre des spectacles, pendant les spectacles où on ne joue pas, parce qu'il y a des compagnies invitées aussi. C'est important parce que ça permet d'enrichir la proposition, ça permet d'avoir des énergies différentes aussi. Et du coup, ils nous retrouvent à côté d'eux dans l'assistance publique avec eux d'un spectacle joué par une compagnie invitée. Bref, tout ça crée pendant les rencontres un climat détendu où on n'est pas requis à l'intelligence, on n'est pas requis à la rigueur de son expression orale. Il y a quelque chose de décomplexé, de détendu pendant ce week-end-là, et puis qu'on essaye d'entretenir d'ailleurs tout au long de l'année à travers nos différentes interventions et nos différentes représentations. Une des réussites, c'est que quand on a commencé les rencontres de Thésée, on avait un public de théâtreuses, beaucoup qui sont venus de Lyon, on avait des gens qui venaient un peu d'Île-Franche, et c'était des gens qui étaient des gens habitués à aller voir du théâtre.
Et puis les éditions passant, on a réussi de plus en plus à concerner des gens qui habitent ce territoire rural et qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Les gens du village de Thésée d'abord. Et puis voilà, ils s'aperçoivent qu'on est dans cette démarche de cordialité, de simplicité. Du coup, ça leur plaît. Donc on a réussi à établir cette relation avec un public local, rural. Et ça c'est une grande réussite. Quand on croise le vigneron qui nous prête les vignes, qui accepte qu'on aille jouer dans ses vignes, il vient nous voir en disant « Ah, c'est vachement bien ce que vous faites !» Du coup, d'une façon très sincère, en fait.
Dans ces journées, il y a d'autres temps que les représentations. Il s'agit des fameuses tables rondes.
Ça va dans la démarche un peu pédagogique, ça complète tout ce que je viens de dire sur notre rapport au public. On trouve important, pour encourager ce rapport de simplicité, d'organiser ces tables rondes qui sont des moments d'échange, de discussion avec des intervenants professionnels sur les différents métiers du théâtre. Donc on a fait sur la scénographie, on a fait venir des scénographes, on a traité des lumières au théâtre aussi, on a traité de la mise en scène, de l'écriture, du passage de la lecture à la mise en scène. On a parlé évidemment du jeu de l'acteur, puisque l'équipe du Théâtre Empire Doré est avant tout constituée d'acteurs, de la démarche de l'acteur, et puis aussi voilà, montrer aux gens que l'acteur n'est pas un extraterrestre doté de pouvoirs exceptionnels. Donc ça, c'est une action pédagogique qu'on tient à faire parce qu'on trouve que ça permet aussi de lever un petit peu le voile sur cette fameuse cuisine interne dont je parlais. C'est vrai que c'est des expériences toujours très fortes. On termine toujours ces rencontres dans l'émotion, souvent, parce que voilà, on sent cette connivence avec le public, les gens qui sont restés plusieurs jours avec nous. Et puis quand vient l'heure de finir et de mettre un point final à l'édition, il y a souvent beaucoup d'émotions parce qu'on a partagé et tout ça fait que ça donne lieu à des beaux moments de connivence et puis de partage.
Nous avons également rencontré Rémi à la technique pour pousser le théâtre hors les murs.
Je m'appelle Rémi El-Mamoun, je suis le régisseur général des rencontres de Thésée et de la compagnie Théâtre Empire Doré depuis presque 10 ans, 9 ans je crois. Donc le régisseur général, c'est celui qui s'occupe de toute la logistique technique, en particulier sur les rencontres de Thésée. J'organise toute la préparation, la planification de l'enchaînement de tous les spectacles, donc la mise en place des équipes techniques aussi, toute l'arrivée, la gestion du matériel sur place, la répartition, les négociations aussi en amont parce qu'on emprunte beaucoup de matériel. On nous prête pas mal de matériel, notamment le TNP, parce qu'on n'a pas des moyens très larges. Donc, charge à moi de gérer tous ces emprunts et le transport de tout ce matériel. Et de même, la planification de tous les techniciens, la mise en place des spectacles quand il y a des répétitions. Et puis aussi pour le jeu, simplement l'enchaînement de tous les spectacles. Il y a une dizaine de compagnies et parfois dans ces compagnies, il y en a qui jouent sur plusieurs spectacles. Voilà, il faut que tout s'enchaîne, que les mises en place techniques se fassent dans le bon temps. Qu'on anticipe, qu'on puisse faire aussi les réglages, parce que comme c'est du plein air, par exemple, la lumière doit se régler de nuit, donc en général, on règle un soir pour le lendemain, parce qu'évidemment, en plein jour, c'est compliqué de régler la lumière. Oui, donc la cour du château, au départ, c'est qu'une simple cour, il n'y a rien, donc évidemment, pour la transformer en salle de théâtre, on est obligé d'amener une scène, amener évidemment de quoi installer le public, et puis amener tout le matériel technique que chaque spectacle nécessite, puisque chaque spectacle a sa fiche technique propre, donc des besoins particuliers. Donc évidemment, il faut mettre en place de la lumière, du son, éventuellement des décors, enfin tout ce qui fait l'œuvre en elle-même, en plus de la prestation des comédiens. Mais bon, on se débrouille pour mettre en place des systèmes son, pour mettre des lumières à travers les fenêtres, dans les petits coins, au sol, là où on trouve pour recréer, ou en tout cas s'approcher des images originelles des spectacles, afin que chaque spectacle ait un rendu unique, quoi.
Vous êtes toujours avec nous sur Radio Calade pour la chronique de théâtre en Pierre Doré. On va faire une petite pause musicale et création toujours, c'est la musique qui nous accompagne tout au long de cette chronique. Une musique créée par Lisa Kat Béraud et interprétée par Armel Dupas, tirée de l'album Broderies et extraite du spectacle du Petit Prince de la compagnie Théâtre en Pierre Doré, justement, sur une mise en scène de Julien Gauthier avec Amandine Blancard.
Radio Calade 100.9.
sommes toujours dans la chronique du Théâtre en Pierre Dorée pour parler de théâtre. Avec cette émission spéciale dédiée à l'équipe de théâtre en pierre dorée de Thésée en Beaujolais. Et derrière le collectif d'artistes également, l'administratrice.
Donc, je m'appelle Corinne Sarrazin et je suis administratrice de production pour la compagnie du théâtre en pierre dorée. Donc, je travaille pour la compagnie depuis 6 ans et je m'occupe principalement de la gestion financière des projets, que ce soit les créations qui sont menées tout au long de l'année par les différents directeurs artistiques, et également du festival qui est une grosse partie de notre activité. Alors on peut dire que je centralise un petit peu toutes les informations administratives, puisque une compagnie, c'est un peu une petite entreprise et que cette petite entreprise a besoin de se structurer administrativement, financièrement, pour pouvoir être crédible auprès des différents financeurs qu'on va interpeller, des différentes institutions, collectivités territoriales ou autres. Alors, les rencontres, c'est effectivement un événement majeur et pour qu'il soit bien réussi, il faut que financièrement, on soit sûr de ce qu'on entreprend, puisque c'est quand même un risque pour la compagnie. On n'est pas une multinationale. Donc, un festival, bon, il y a une partie de recettes, hein, puisqu'il y a une billetterie, mais il y a aussi des partenaires. Et c'est ces partenaires que moi, je vais interpeller, je vais leur proposer de cofinancer donc, cet événement. Et pour les convaincre, il faut évidemment faire des budgets prévisionnels, montrer que par le passé, on a bien géré l'argent, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire des devis, ça veut dire tout ce qui incombe un peu à la partie financière comptable, en tout cas de ce genre de structure. Alors, c'est sûr qu'on est une petite équipe, donc on travaille vraiment main dans la main. Et pour une administratrice, c'est important d'être en phase artistiquement avec ce qui se passe dans la compagnie, c'est-à-dire apprécier le théâtre qui est proposé et puis avoir une bonne entente aussi avec les différents protagonistes. C'est le cas, hein. Je veux dire, dès notre rencontre, on a créé une connivence, une confiance qui perdure aujourd'hui et qui nous permet de travailler en bonne collaboration.
Et à travers les projets de cette compagnie théâtre, nous écoutons Damien Gouy nous parler de maillage territorial.
Tout à fait. L'idée du théâtre en Pierre Dorée, c'est d'être présent tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire des Pierres Dorées. Donc le territoire, ce qu'on entend le territoire, c'est surtout la communauté de communes des Pierres Dorées. À partir des rencontres de Thésée qu'on a créées il y a maintenant 9 ans, nous essayons de mettre en place une sorte de présence tout au long de l'année, et donc en hiver, pour rencontrer encore plus les gens et les habitants de ce territoire. Cette activité a été aidée et soutenue dès le départ par la mairie de Thésée et par les travaux qui ont été effectués à la salle Cherpin. Donc c'est une salle communale qui se situe derrière l'église de Thésée, qui a été entièrement refaite avec l'aide du département, avec l'aide de subventions publiques. Cette salle peut maintenant accueillir des petits événements privés, mais aussi donc du théâtre. Et à partir de cet épicentre, on essaye de rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc on a créé depuis l'année dernière les rencontres avant l'heure qui se proposent, à partir des spectacles que nous essayons de mettre en place dans cette salle de Cherpin, des rendez-vous avec différents publics, dont des rencontres littéraires en lien avec la bibliothèque de Thésée. L'idée, c'est qu'on fait une sorte de café littéraire, voilà, des rencontres littéraires, au café du village, qui s'appelle La Feuillée, café-restaurant. Et donc, on se retrouvait l'année dernière, tous les samedis matins, pour présenter le spectacle qui allait avoir lieu dans le week-end en salle Cherpin, et avec l'aide donc des bénévoles bibliothécaires, la découverte et le partage de coups de cœur qu'eux-mêmes ont eu. Donc sur les 1h30 de rencontre, on fait venir l'auteur du spectacle qui sera joué, soit une rencontre avec les acteurs ou une rencontre avec l'univers de l'auteur, c'est-à-dire Le Petit Prince devait jouer, donc l'idée était de lire des textes de Saint-Exupéry autres que Le Petit Prince. Voilà, en fait, toute une organisation autour de ce spectacle pour présenter le spectacle et partager pourquoi ce spectacle, pourquoi cet auteur qu'on allait donner donc, dans le week-end en salle Cherpin. Ça, c'est une première activité qu'on a au sein des rencontres avant l'heure. La deuxième activité, c'est les stages de théâtre. Parce qu'il est important pour nous aussi que les gens expérimentent le théâtre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là comme détenteurs d'un certain savoir, mais on est là pour faire ensemble. Voilà, le théâtre, en fait, c'est ça, c'est le faire ensemble. Il y a eu 4 week-ends de stages de théâtre qui devaient donner lieu à une représentation en amont du festival. Voilà. C'est très important pour nous. On sait que le territoire génère beaucoup de troupes de théâtre amateur. Et donc nous, en tant que professionnels, on a certains outils sur la prise de parole, sur la lecture à voix haute, sur le faire ensemble, sur parler à l'autre, s'écouter. Voilà, des choses simples, si vous voulez, qui font partie de notre métier de tous les jours, mais qu'on aime bien partager avec les gens. C'était week-end où il y a 8, 10, 12 personnes par stage. Nous, on aime bien être à la rencontre du public et des gens. C'est pour ça qu'on appelait tout ça rencontre, d'ailleurs. Quatre têtes pensantes avec quatre visions du théâtre qui se ressemblent, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc déjà, entre nous, en fait, on a déjà des barrières qui bougent. J'ai une pensée très claire. Clément, Amandine, Julien vont me faire bouger de ce que je pense. Et l'idée de rencontrer, en fait, les gens est aussi là-dessus. C'est-à-dire de bouger nos convictions. Et plus on rencontre l'autre, plus on se rencontre soi-même aussi, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée principale de notre théâtre aussi. Et donc, l'envie, on essaye de développer des choses avec l'école aussi, de Thésée, serait de faire la même chose sur l'ensemble des 34 communes du théâtre en pierre dorée. Ce qui est important pour nous, c'est que tout se fasse à partir de la représentation qui va avoir lieu, soit le samedi soir, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, et qu'à partir de cet instant où les gens vont venir voir un spectacle professionnel, autour, nous sommes présents pour rencontrer les gens, pour partager le moment présent. Voilà. L'idée ensuite, donc, par rapport à toute cette activité au long de l'année, c'est de se retrouver donc pour faire une grande fête au moment des rencontres de Thésée, qui serait le point culminant en fait de notre activité sur l'ensemble du territoire sur l'année. Et pour ça, on essaye aussi de créer des liens très forts avec les gens qui sont proches du livre et donc des librairies. Voilà. On essaye de soutenir la librairie Cassiopée au Bois d'Ouin et donc d'être en relation avec elle et d'être présent pour des lectures, pour des rencontres avec les gens dans sa propre librairie. Et donc, depuis peu, nous sommes en relation aussi avec la librairie des Marais à Villefranche.
Également de la compagnie Julien Gauthier, comédien et cofondateur, à propos du prochain projet de création de la compagnie du théâtre en pierre dorée, et notamment la création d'une pièce autour d'Alpha Kaba, ce journaliste guinéen revenu de l'enfer de l'esclavage en Libye. Julien Gauthier reviendra sur ce parcours de migrant qui l'a particulièrement touché. Mais en attendant cet autre temps fort de la compagnie, et avant de retrouver les trois comédiens pour des lectures de morceaux choisis, on va s'accorder une autre pause musicale avec Suissa, le chanteur lyonnais, pour une autre version chaloupée de La Tendresse, interprétée à l'époque par Bourvil en 1963. C'est un clin d'œil à la petite forme de la compagnie du théâtre en pierre dorée, Bourvil, poète du bal perdu, joué notamment au théâtre des Marronniers à Lyon l'an dernier. On découvre la version de David Suissa, La Tendresse, avec René Lacaille et David Doris.
Sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire. Sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant.
professeur. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh ben on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 long. Le temps nous paraît long. Immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour. Jusqu'à la fin du jour.
Radio Calade 100.9.
Voilà, c'était la version pop chaloupée de La Tendresse par David Suissa du label Chantez tais-toi. On est ensemble depuis une demi-heure pour parler de théâtre dans la chronique du théâtre en pierre dorée, avec une émission spéciale puisque toute l'équipe de la compagnie de Thésée en Beaujolais est avec nous. Et après les avoir tour à tour entendus nous présenter la compagnie, les rencontres de Thésée et l'impact de ce festival de théâtre qui a lieu fin juin au château de Rochebonne sur le territoire des Pierres Dorées, nous allons les écouter déclamer des textes de leur choix, textes d'auteurs ou prises de parole à propos du théâtre. On commence tout de suite avec Amandine Blancard.
Je vais vous lire un texte de Charles Dullin, extrait des souvenirs et notes de travail d'un acteur. Le plus beau théâtre du monde, c'est dans la foi, dans l'amour de notre art, dans une élévation constante de l'esprit qu'il faut le chercher, et non dans un déploiement de richesses inutiles. La plupart des théâtres modernes peuvent en quelques semaines être transformés en banques, en magasins, sans grand dommage. Pour moi, ils n'ont pas d'âme. J'aime mon théâtre parce que c'est un vrai théâtre. Allez sur la place d'Encourt, regardez-le bien et vous l'aimerez comme moi. Il est impropre à tout autre service. Il n'a pas même voulu du cinéma. Il a abrité tant d'illustres personnages. Songez aux rois, aux tyrans, aux héros, aux amoureux, aux malandrins de race, aux fées, aux dieux qu'il a pu voir dans la parade de la scène et dans l'intimité de ses loges. Ses murs ont étouffé tant de cris, tant de plaintes, tant de sanglots. Il est sanctifié par mille souvenirs. Il a l'autorité sainte des vieux phares sur les côtes et il appelle le recueillement des églises de campagne. Entrez à l'intérieur. N'est-ce pas un lieu de sympathie, de tendresse, de cordialité? Existe-t-il un théâtre comme celui-ci où les mots, quand ils sont bien dits, gardent toute leur saveur et leur sonorité? N'est-ce pas un beau théâtre que celui où l'on entend parfaitement la pièce? C'est pourquoi quand avec une délicatesse et une amabilité que je ne saurais trop louer, Philippe de Rothschild est venu proposer au cartel de la direction du magnifique théâtre Pigalle, je me suis dit, quoi? Je quitterai tout ça pour un temple moderne qui ne sait même pas ce que c'est que Buridan? Je ne verrai plus le samedi soir une galerie bondée d'amis inconnus? Que dirait-il en me voyant aller à l'argent, eux qui m'ont soutenu dans les pires traverses? Le plus beau théâtre du monde, Ce n'est pas la machine à descendre les dieux sur la scène, ce sont les dieux qu'il nous faut.
On retrouve le choix de Clément Morinière.
Extrait de « Quel théâtre pour aujourd'hui ?» de Jean-Pierre Siméon. Amener un nouveau public, comme on dit, à une œuvre qu'il juge, à juste raison, problématique, implique que l'on réfléchisse ailleurs, que l'on déplace la question. Qu'est-ce qui, dans la posture du spectateur, lecteur, de nos discours, comportements, habitudes, désigne comme convenable, la rend, sinon intenable, du moins désagréable, et donc décourage. Disons-le ainsi, il règne autour de l'objet théâtral un certain climat, un brouillard de faits, d'attitudes, de signes distinctifs que l'ensemble des protagonistes du théâtre génère. Pêle-mêle, le sentiment d'importance et d'exceptionnalité, la gravité de l'événement, l'esprit de sérieux, la manie de la glose, le paratexte proliférant, la tendance d'émurge gourou des chefs de groupe, la componction des attitudes physiques, un silence des cathédrales et des chuchotements de sectes, jusqu'au mode vestimentaire qui manifeste comme un emblème une sourcilleuse rigueur. Qu'on ne se méprenne pas, je ne désigne pas là le toujours soupçonné microcosme parisien, le climat général et peut se faire sentir aussi dans la plus petite des scènes de région, fût-elle alternative. En outre, que le monde du théâtre ait ses codes d'appartenance, comme le monde sportif ou politique, c'est inévitable et franchement, pourquoi pas. Ce qui importe, c'est encore une fois, ce que cela dit implicitement de la posture obligée du spectateur et de sa relation à l'œuvre. Relation grave, informée et sûre de son fait. Or, c'est là que le bât blesse. Comment dire ? Voilà ce que je crois. Le théâtre, la poésie, est essentiel. Mais ce n'est pas grave. Que l'œuvre importe ne devrait surtout pas nous conduire à faire les importants, à jouer les importants. De grâce, ne jouons pas, soyons simples et francs, c'est-à-dire incertains autant que convaincus. Dérogeons enfin, nous autres, faiseurs de théâtre et habitués du théâtre, de cette position haute, implicite, qui sue par tous les pores. Cessons de donner à croire, en dépit de nos professions de foi, la main sur le cœur villarien, que nous travaillons pour tous, alors que notre travail ne vise et ne considère que le spectateur à la hauteur de ce que nous croyons être. Oui, c'est bien du climat général qu'il s'agit. Un climat qui laisse entendre que le spectateur de théâtre doit être, preuve à l'appui, intelligent, rusé et savant, alors même que la fonction politique originelle du théâtre est de le rendre tel. Bref, d'éduquer le citoyen. Nous devrions veiller par-dessus tout, à chaque instant, à ce que les dispositifs, les discours, les comportements dont nous entourons l'œuvre d'art soient empreints de simplicité et d'humilité.
Damien Gouy revient sur un texte qu'il a choisi de Robin Renucci et Isabelle Franck aux éditions Presse de la Renaissance, dans la collection Chemin faisant.
Dans notre parcours, nous avons eu la chance de rencontrer Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous ces hasards qui n'en sont pas ». Je vous lis un extrait de ce livre. Je fais partie de ceux qui regrettent que l'on n'insiste pas assez, en France, sur l'éducation artistique. Hormis l'école maternelle, très propice à l'éveil artistique et à l'initiation aux arts de ses petits élèves, notre système éducatif s'adresse principalement aux enfants à travers leur raison, au détriment de leur affectivité. De cette manière, on produit une façon de penser souvent stéréotypée et relativement pauvre derrière le vernis de l'érudition. Passé les petites classes, que d'aucuns confondent avec la garderie, l'éducation artistique est trop souvent considérée comme un luxe ou un passe-temps, alors qu'elle est au contraire essentielle. Elle devrait faire partie du bagage proposé à tout enfant tout au long de sa scolarité, qu'il soit talentueux ou non. L'idée n'est pas de produire à tout prix des artistes, mais d'ouvrir à chaque futur citoyen l'accès à l'art, afin de lui permettre d'accéder encore mieux au monde, aux autres et à lui-même par la voie de la sensibilité. La découverte de la correspondance qu'il peut y avoir entre un geste et une intention, la contemplation de la beauté d'un mouvement d'un regard, d'un son, d'une couleur et de son jeu en écho avec une autre couleur. La reconnaissance d'une odeur, d'un goût, d'une sensation tactile, de la résonance sensorielle entre toutes les perceptions, des émotions et des sentiments qui les accompagnent sont des moments essentiels pour le développement de l'intelligence dans sa globalité. Le travail artistique et la pratique culturelle canalisent les énergies. En cela, ils permettent la découverte des limites, celles qu'il faut respecter, comme celles qui appellent un dépassement de soi. Je crois profondément que chacune de nos expériences vécues modifie ensuite totalement l'acquisition de nouvelles connaissances. Tout ce que nous vivons nous enrichit, car c'est l'expérience qui est à l'origine de la pensée, et non le contraire. L'expérience de la création artistique partagée multiplie ses richesses. En cela, elle est véritablement fondatrice. Les capacités cognitives sont sous-tendues par la vie affective, les émotions, les relations et les échanges. Dès lors, ne pas se préoccuper d'éducation artistique, c'est méconnaître ce que nous savons aujourd'hui du développement de l'intelligence humaine. La prise de conscience chez les jeunes de la diversité et de la richesse des attitudes culturelles contribue par ailleurs souvent, de manière décisive, à la reconnaissance des différences culturelles et sociales. Contre la violence et l'incivilité, contre les racismes, les arts et la culture peuvent contribuer à créer une école de la tolérance et du respect de l'autre. Les règles de l'art sont également celles de la vie.
Pour terminer le dernier quart d'heure de cette émission spéciale consacrée au théâtre des Pierres Dorées, on va retrouver Julien Gauthier, également comédien et cofondateur, à propos du prochain projet qui va porter sur la vie et l'histoire d'Alpha Kaba, ce journaliste guinéen revenu de l'enfer de l'esclavage en Libye. Et pour accompagner ce parcours de migrant qui va inspirer donc la prochaine pièce, un peu de musique guinéenne avec Sori Kanja Kouyaté sur le morceau Siiba. Et on retrouve Julien Gauthier pour la dernière partie de cette émission consacrée au théâtre des Pierres Dorées.
Alpha Kaba, donc c'est le nom de cette personne. Et le livre qu'il a écrit, qui est sorti en 2019, s'appelle « Esclaves des milices ». Et le spectacle que j'appelle moi-même Alpha Kaba, par son nom, adapte ce livre. Mais vu que c'est l'histoire de sa vie, je trouvais ça plus approprié de l'appeler Alpha Kaba. Et puis Alpha Kaba, j'aime bien son nom en plus. Donc.
Ce journaliste guinéen qui a donc sorti un livre qui vous a particulièrement touché et qui fera l'objet d'une nouvelle création pour la compagnie Théâtre en Pierres Dorées.
Oui, tout à fait. Suite à notre venue avec le menteur au Domaine d'eau à Montpellier, où on a été particulièrement bien accueillis. Disons qu'on a suscité le désir chez eux de produire un spectacle contemporain. En fait, la programmatrice, Lisa Sirenay, a été touchée par notre manière de jouer des classiques et elle s'est dit « mais vous jouez de manière tellement contemporaine que ça me plairait beaucoup que vous fassiez du théâtre contemporain ». Donc nous, on était contents. Et là, elle m'a encouragé à travailler sur les déplacements de population, les migrations de population, les identités. Alors les migrants, voilà, bien sûr, j'avais pensé aux Syriens. Mais à propos de la Libye, il y avait quelque chose de, comment dire, j'avais pas vraiment compris ce qui se passait. Je savais qu'il y avait des personnes qui se faisaient prendre en otage, entre guillemets, mais je savais pas vraiment plus. Donc j'ai commencé à lire plusieurs pièces et je suis tombé sur des pièces de théâtre qui m'ont paru un peu violente, un peu agressante pour le spectateur. Donc ça m'a pas vraiment touché. J'avais pas envie non plus d'accuser les spectateurs d'être là dans leur fauteuil pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Et je suis tombé vraiment par hasard sur ce livre, Alpha Kaba, Esclaves des milices, et qui a un ton très personnel, très sincère, très, très simple, où il raconte sa vie. Donc il nous raconte aussi la vie d'un Guinéen, ce qu'il habite, quelles sont les religions autour de lui, le modèle familial qui est très différent, tout ça dans la francophonie. Donc en même temps, on est très cousins parce qu'ils apprennent la littérature comme nous. Enfin, on a beaucoup de points communs et en même temps, c'est très différent. Tout ce récit, sa passion pour le journalisme, le commentaire, il est commentateur sportif aussi depuis enfant. Enfin voilà, c'est assez touchant et on suit toute sa trajectoire professionnelle, puis aussi familiale, amoureuse. Ils ont des enfants plus tôt que nous, souvent là-bas, donc il passe son bac en même temps que sa femme a un jeune enfant. Et voilà, on plonge dans la vie d'un Guinéen, quoi, et les différences qu'il y a. C'est ça qui m'a plu, c'est que j'ai rencontré vraiment quelqu'un. Et après, bien sûr, arrivent les événements politiques, où lui, en tant que jeune animateur radio, anime une émission pendant des mouvements populaires. Et cette émission est très relayée, très écoutée pendant la manifestation. Donc le pouvoir du président Alpha Condé désigne cette radio comme responsable des violences, j'imagine, qu'il y a pu avoir pendant la manifestation. Et l'armée arrive à la radio pour les arrêter, puis saccager la radio. Et après, il fuit. Et à partir de ce moment-là, c'est le thriller, quoi, d'une certaine manière. Il est poursuivi. Donc il passe dans le pays voisin, il attend, il y a des journalistes militants qui veulent l'aider, et notamment un journaliste en Algérie qui propose de l'aider. Donc là, il y va de manière clandestinement, exactement. Donc il se retrouve vraiment dans le flux de migrants, là, à ce moment-là.
Radio Calade, 100.9. Le
de ce journaliste algérien qui devait l'aider. Donc il se retrouve bloqué avec des migrants, avec les différents noirs qui sont autour de lui, de différents pays. Il entend parler de la Libye comme vraiment un territoire très dynamique, où il y aura des opportunités, on pourra simplement avoir du travail, alors que Kadhafi est déjà mort, et que le régime a été renversé, et qu'il n'y a pas d'État plus instable que la Libye. Mais ce qui est fou, c'est qu'eux ne le savent pas. Ils se remettent en route vers la Libye, décrit cette scène comme le pacte avec le diable, même carrément. Donc toutes les scènes emblématiques seront représentées dans le spectacle. On prend son passeport, on le brûle, et puis toutes ses affaires, il lui reste son t-shirt, son pantalon, et puis ensuite, direction les camps de travail. Lui, il appelle même ça un camp de concentration, si vous voulez. Donc, puis bon, ils sont très maltraités. Il y a des exécutions sommaires. Les femmes sont violées. Enfin, ils sont passés des semaines à enterrer d'autres personnes esclaves dans le désert. Il avait la peau tellement noire que brûlée par le soleil, il explique. Il a perdu vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Enfin, dans plusieurs camps, hein, parce qu'après, il est vendu, acheté. Il travaille dans des champs de dattes. Et puis un jour, un passeur lui dit « Bon, bah, vous avez bien travaillé, je vous fais vraiment passer. » Donc, les difficultés ne sont pas finies, mais voilà, au moins la violence et le statut d'esclave disparaît pour lui. Parce qu'il a été très très abîmé. Donc une anecdote qui est vraiment touchante, c'est qu'au sein même de cette horreur, au bout d'un moment, il dit qu'il a comme décidé de survivre. Parce qu'il s'est dit, mais en fait, moi, là, je ne suis plus un être humain, je ne suis plus considéré comme un être humain, mais il se trouve que moi, je me définis comme journaliste. Et le journaliste doit raconter ce qu'il voit. Et grâce à ça, ça va s'arrêter. Donc il se fait vraiment une mission de raconter cette histoire-là, et c'est ça qui le fait survivre. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant, surtout qu'il a 25 ans à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, il en a 30. Et moi, je l'ai rencontré, c'est un beau garçon, très souriant, très sympa. Il a pas de rancœur, il y a une transcendance là. Il considère ses maîtres, il les appelle comme ça, comme des gens qui se sont trompés, quoi.
Et alors justement, Julien, en termes de mise en scène, comment on s'approprie un tel récit ?
Moi, j'ai envie de me cantonner à mon rôle de faiseur de théâtre, d'une certaine manière, ce qui est de raconter cette histoire. J'ai envie de le raconter du point de vue d'Alpha Kappa, de simplement raconter cette histoire-là le mieux possible pour qu'on suive et qu'on rencontre cette personne, Alpha Kappa, qu'on le connaisse, on est touché par cet être humain, et le connaissant, on est moins ignorant de l'autre, quoi. Parce que je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de se connaître les uns les autres. Donc on va parler des migrants et tout ça, mais oui, mais très bien, mais c'est un mot, et derrière on n'a pas forcément une rencontre. Et le spectacle permet ça. En tout cas, à travers un spectacle ou un livre, enfin moi c'est ça que j'ai ressenti en lisant le livre, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer quelqu'un. Et je pense qu'un spectacle est la continuité du livre. Et puis après, bon, allez, il a fallu faire des choix, parce que pour la distribution, je me suis restreint à 4 acteurs sur le plateau. Il y aurait un acteur noir qui s'appelle Jamil Mohamed, qui est un jeune acteur qui sort de l'école de Saint-Étienne. Et là, voilà, moi, ça me plaisait beaucoup que ce soit un jeune acteur à qui on donne sa chance, quoi, d'une certaine manière. Après, il y a Sandra Parfait, donc elle aussi, qui est noire et qui va jouer des rôles féminins ou masculins, même, hein, dans toute l'histoire. Ensuite, il y a Mohamed Brika, qui, lui, est maghrébin, et Damien Gouy, qui, lui, est blanc, quoi. Donc, voilà, c'est mon idée, c'était aussi de réunir ces trois origines. L'Afrique, le Maghreb et l'Europe, quoi, pour avoir un panorama de l'Odyssée d'Alpha Kappa. Ça me plaisait que la distribution reflète cet univers-là, mais il se trouve que chacun ne jouera pas forcément les personnages de sa couleur de peau, qu'on puisse s'affranchir un petit peu de tout ça, quoi. D'avoir le théâtre qui s'invente, on n'est pas seulement dans une incarnation, on est aussi dans un récit, tout simplement. Et dans un récit, on peut jouer qui on veut. On peut se transformer. Bon, on admet à partir du moment où c'est clair pour la mise en scène. Donc on peut inventer des systèmes de narration. Il va y avoir des scènes dialoguées, bien sûr, pour notamment la scène dont je vous parlais, la scène du diable. On va se positionner comme un conteur Alpha Kappa, donc sera lui, je plus incarné par Jamil Mohamed, et les trois autres acteurs autour de lui seront au service du récit. On parle de gens qui n'ont rien. Ça me plaisait aussi une métaphore avec le théâtre, qui lui-même est dépouillé. L'important n'est pas dans ce qu'on va regarder, mais l'important est dans l'être humain et ce qu'il vit. Tout le mois de septembre au théâtre municipal de Vienne, où nous jouerons après au mois de janvier. Mais la création est donc début octobre, à la suite de nos répétitions, où nous faisons une résidence de création au Domaine d'Eau, à Montpellier, pendant 10 jours, où nous sommes reçus pour créer le spectacle avec les lumières, le son. Il y a Rémi El Mahmoud et Fred Bezerina qui vont s'occuper de la lumière et du son. On va créer ce spectacle, raconter cette histoire-là. Voilà, on va travailler de manière très simple. C'est un spectacle un peu particulier, vous voyez, puisque quelque chose de sensible, le fait qu'aujourd'hui encore, il y a ces camps d'esclaves noirs dont les tortionnaires sont maghrébins. Uniquement, donc c'est vraiment très ethnique. Voilà, le fait qu'il y ait cette actualité-là me pousse à aller vers un grand dépouillement et vraiment juste une parole simple, citoyenne, qui relaye Alpha Kaba, parce que comme si lui venait parler. Il a survécu pour raconter ce spectacle. Il est adorable. Justement, il m'a conseillé cette musique-là. Je suis en relation avec lui. Je peux lui poser des questions. Lui soutient. Il dit que c'est une très, très bonne chose. Il est vraiment content. Il va venir faire une conférence juste avant la première. Une conférence avec signature de livre. C'est bien qu'il puisse être là et qu'on puisse le rencontrer.
C'était la chronique du théâtre en pierre dorée.
Un rendez-vous radio pour parler théâtre.
Et si on parlait théâtre ? C'est pas la même chose.
C'est merveilleux ! C'est le plus beau métier du monde !
Une rencontre avec les auteurs, comédiens, metteurs en scène pour parler théâtre, à l'initiative du théâtre en pierre dorée de Thésée. Des témoignages et un partage inédit pour maintenir le lien en attendant la réouverture des lieux de théâtre. Trouvez les informations sur l'invité du jour et sa compagnie sur la page Facebook de Théâtre en Pierre Dorée. Réécoutez cette émission en podcast sur le site www.radio-calade.fr.